Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Philippe de Sertine. Bonjour, économiste. Bonjour. Et directeur de l'Institut des Hautes Finances. On va revenir sur la situation politique et donc économique de la France. Quel est pour vous le risque le plus fort de cette situation, de cette instabilité politique et potentiellement d'avoir un gouvernement Rassemblement National?
Alors je dirais, il y a en fait, on va dire, deux phases de risque. Le premier risque qui va être de toute façon pour toutes les majorités, quelles qu'elles soient, ou même si elle est relative après les élections, ça va être la question de septembre, c'est-à-dire le problème du budget. La situation des finances publiques françaises est extrêmement tendue. Nous avons vu d'ailleurs immédiatement les réactions, ce sont des réactions sur les taux, qui immédiatement ont des conséquences lourdes par rapport à ce qui sera possible, ou plutôt ce qui ne sera plus possible, et qui obligera à vraiment modifier fortement, les perspectives que l'on peut avoir sur 2025. Après, le deuxième risque, qui est un risque que l'on peut avoir avec d'autres majorités, et en particulier celle du Rassemblement National, mais pourquoi pas aussi celle d'une dominante LFI, c'est le risque de rupture avec l'Allemagne. Et je crois que là, vraiment, nous, Français, on doit bien comprendre qu'on n'est pas un pays comme les autres en Europe, qui sont considérés peut-être comme un peu plus mineurs dans l'attelage européen. Nous sommes associés à l'Allemagne. Et à partir du moment... Nous sommes un couple et nous, Français, on va dire, on profite beaucoup du couple, c'est-à-dire que nous avons des taux d'intérêt depuis des années qui ne sont pas complètement associés à nos situations, notamment de finances publiques, parce que les marchés achètent de la dette française quand ils ne peuvent pas acheter de la dette allemande.
Et donc, parce qu'il y en a peu aussi sur les marchés, du coup, ils se reportent.
Alors ça tombe bien.
Ça tombe bien parce que nous, on en a beaucoup. On voit que les écarts de taux se sont creusés entre la France et l'Allemagne, qu'on s'est rapproché, nous, du Portugal. Ça, à la rigueur, c'est sur les marchés. Mais quand vous dites l'Allemagne pourrait nous lâcher, en avoir marre, ne pas suivre, c'est quoi? C'est si nos finances publiques dérapent, nous lâcher politiquement?
Alors, avec RN, attention, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que c'est la France qui dit à l'Allemagne qu'on en a marre. C'est-à-dire qu'on peut être dans cette situation. Et là, évidemment, ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais, par exemple, nous avons des questions en ce moment absolument cruciales. Et pardon de sortir de la sphère économique, mais qui nous y ramène immédiatement. Par exemple, sur la question ukrainienne. L'Ukraine et la problématique de la guerre, elle est aux portes de l'Allemagne. Elle est beaucoup plus loin pour la France. Il est clair que si un gouvernement était, beaucoup plus distancié par rapport au soutien à l'Ukraine, l'Allemagne pourrait considérer que ça, c'est quelque chose de très dangereux pour son mode de fonctionnement, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe du Nord. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment, et nous sommes depuis des années dans une situation où l'on dit, mais de toute façon, l'Allemagne ne peut pas nous lâcher parce que ce serait trop grave pour elle. Ça peut être nous qui décidons de la lâcher. Et le programme...
Ça, c'est l'explosion de la zone euro, ce que vous nous dites. C'est-à-dire que sans le couple franco-allemand qui se tient et qui partage la même vision, il n'y a pas de zone euro.
Oui, c'est une fracture de la zone euro. C'est une fracture de la zone euro et c'est probablement le risque le plus fort. C'est-à-dire cette sorte d'anticipation très légère qu'on a eue lundi et mardi sur les marchés financiers. Surtout lundi, puisque mardi, on commençait aussi à avoir des éléments associés à l'inflation mondiale et au fait que les taux ne vont pas baisser, du point de vue américain pour le moment. Donc on peut avoir effectivement cette tension forte qui ne serait plus relayée par une confiance politique. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on n'a encore jamais connu. Je rappelle que même, par exemple, quand on a eu des grands bouleversements, vous êtes beaucoup trop jeune pour l'avoir connu, mais quand en 1981, la gauche et le Parti communiste arrivent au pouvoir, on n'était pas du tout dans une situation politique, il y avait encore l'URSS, etc. Immédiatement, en fait, la première chose qu'avait fait François Mitterrand, c'est donner à l'Allemagne des gages de confiance en disant ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. Et il n'a cessé de le faire de façon très forte parce que tout le monde avait compris, c'était pas encore l'euro, mais on était déjà dans cette situation avec une imbrication très forte, qu'il était capital de maintenir ce lien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cet élément-là de vue. Parfois même, l'électeur français a le sentiment que ce serait bien qu'on rompe avec l'Allemagne sans se rendre compte à quel point nous sommes dépendants dans notre situation de déséquilibre, on va dire, du fait que ça ne craque pas parce que nous avons ce lien avec l'Allemagne.
Tous ceux qui se succèdent sur ce plateau, alors je ne sais pas si c'est espère, mais en tout cas disent de toute façon, que ça soit d'un côté ou de l'autre des extrêmes, s'ils arrivent au pouvoir, ils ne pourront pas mettre en place leur programme. Il y aura un audit des finances publiques et puis ils diront bah, c'est pire que ce que je croyais, donc on ne met pas en place tout ce qu'on a dit. Ça, c'est une croyance ou c'est ce qui probablement va se passer? Il peut y avoir quand même des décisions qui sont anti-business et qui portent atteinte à l'économie du pays.
Alors, la première chose chose, effectivement, c'est que, bien sûr, dans la campagne électorale qui va venir, je pense qu'il va falloir, quand on est un électeur normal, voilà, prendre beaucoup de distance par rapport à toutes les annonces qui vont être faites. C'est-à-dire qu'on va avoir des débats incroyables sur telle ou telle ou telle mesure. En réalité,
c'est impossible.
Voilà, on va être au mois de septembre, de tous les côtés, on va vous dire, non, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que, non, c'est bien pire qu'on croyait. Alors, comme vous dites, si c'était la majorité actuelle, on dira, la situation s'est encore dégradée, et notamment parce que pendant tout le mois de juin, il n'y a plus de business. Au passage, notre PIB ne va pas s'améliorer, puisqu'on a eu les grands ponts de mai, on va avoir maintenant la période électorale de juin, puis l'incertitude politique probablement en juillet-août. Ce ne sera pas bon pour la croissance en général. Mais donc, on dira, c'est pas possible. Et donc, effectivement, tous les électeurs qui vont avoir voté pour, on dira, ah oui, mais en fait, on n'avait pas prévu. Personne n'avait vu. C'est grand, vous savez, c'est les grands refrains qu'on entend souvent. Un, faut pas exagérer, c'est à peu près ce qui s'est passé depuis deux jours. Deux, personne n'a vu venir. Puis trois, on fait un audit et là on se rend compte que non, ça va pas du tout. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rassemblement National a déjà commencé sur cette voie en disant, on va prendre... Et oui, on va faire un audit et on verra. Donc ça veut dire, effectivement, l'électeur doit bien comprendre que l'audit... On sait à peu près ce qu'il va dire. Il suffit juste de relire les rapports de la Cour des comptes il y a peu de temps. Vous l'avez, l'audit. Mais on le fera après les élections. Ça permet effectivement, dans la période électorale, on va dire, de promettre un peu tout et son contraire.
Mais il faut être très clair vis-à-vis des investisseurs internationaux. On a vu par exemple sur les JO, alors vous allez me dire c'est anecdotique, mais on devait prendre une décision sur 2030 pour les Alpes. Rien que le comité des Jeux Olympiques dit « Je ne dirai rien tant que je n'aurai pas les résultats des élections en France » sur ce point qui est un point sportif. On est là aussi chez les investisseurs étrangers.
Oui, je crois que vraiment là aussi, la confiance des investisseurs étrangers provient notamment, évidemment, du système européen, du fait qu'on avait jusqu'ici une stabilité en France, on avait des perspectives à peu près claires. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec un risque d'instabilité française qui est un risque important d'instabilité européenne. J'ajoute peut-être quand même que là aussi, sur lundi et mardi, on a eu des éléments qui sont non négligeables, qui est la tension entre le dollar et l'euro. La question du change par rapport à tout ce que nous évoquons est loin d'être négligeable et elle va s'accentuer, je dirais mécaniquement...
Avec un euro qui baisse.
L'euro qui baisse, à partir du moment où la Banque Centrale Européenne a commencé, on dit souvent, là c'est la première fois qu'elle annonce une baisse de taux, avant les États-Unis. Oui, ça tombe pas bien, les États-Unis n'annoncent pas de baisse de taux. Ça veut dire que là, mécaniquement, le dollar s'apprécie. On va dire, oui, et alors, ça permet d'exporter plus. Nous, Français, on a vu nos derniers chiffres du commerce extérieur, ce qui sont un peu plus mauvais, notamment ces derniers mois. Donc ça ne nous avantage pas. En revanche, l'euro qui baisse, c'est l'énergie qui va monter. C'est ça qui est très important, que l'on doit comprendre. C'est un risque de retour d'inflation par le biais de l'énergie, alors que nous aurons baissé les taux.
Par le pétrole qu'on achète.
Exactement, par l'ensemble de l'énergie que nous payons en dollars. Donc par conséquent, la tension dollar-euro est une tension à laquelle nous devons être très attentifs, et pour le coup, que l'ensemble de la zone euro regarde. Et c'est vrai que ce que nous disions tout à l'heure, les résultats des élections européennes n'étaient pas des résultats, évidemment, c'était attendu.
C'était assez stable, en fait.
C'était finalement assez stable. Les fluctuations de marché qu'on a eues, et notamment sur l'euro, je crois qu'il faut vraiment insister. La France en est en grande partie l'origine. Parce
on
n'aurait
pas dû baisser les taux, du coup c'est pas,
aux États-Unis, vous voulez
ici,
dire
non, ici, la Banque Centrale Européenne n'aurait pas dû prendre cette décision, du coup, parce qu'on va repartir dans une
exactement.
Période inflationniste.
D'ailleurs,
fait.
Vous savez qu'effectivement, on avait des vraies questions qui se posaient au moment de la baisse des taux. On a hésité en disant, non, a priori...
Avec des chiffres qui n'étaient pas terribles.
Voilà, mais enfin, a priori, l'inflation baisse. L'une des grandes questions qui se pose est sans arrêt la question par rapport aux États-Unis. Parce que, je le répète, nous avons nos taux, mais nous avons le rapport dollar-euro, qui est en fait avec beaucoup de conséquences. Et je le répète encore, la conséquence forte, peut-être que vous avez un prix du pétrole stable, mais quand vous le payez en dollars, si le dollar monte, en fait, votre pétrole monte. Donc, on a cette question qui se pose aussi du point de vue européen. Ces éléments structurels font que d'un seul coup, les investisseurs disent risque. Et d'ailleurs, les agences de notation ont immédiatement réagi en disant, jusqu'ici, tout nous paraissait à peu près stable, sauf S&P Global Rating, qui avait dit, là, moi, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qui se sont dégradés, donc je dégrade légèrement la note française. On a immédiatement les éléments de gyrophare qui commencent à tourner en disant, on est attentif. Il ne s'est encore rien passé, le vote n'a pas eu lieu. Et peut-être, effectivement, ce que l'on peut essayer lorsque on a des électeurs qui nous écoutent ce matin, c'est dire, juste quand même, entendez ça au moment où vous allez mettre votre bulletin dans l'urne, quelle que soit votre opinion politique. À la limite, ce que vous devez faire, remonter au responsable qui a votre préférence, c'est attention quand même, il y a des éléments techniques, c'est pas politique, ce sont des éléments techniques qu'il faut absolument prendre en compte lorsqu'on est en train de se projeter sur l'avenir du pays.
Une minute encore, parce que j'aimerais votre avis sur la décision de la Commission européenne sur les exportations chinoises, sur les importations de véhicules chinois en Europe. Il y a eu cette décision. Jamais l'Europe ne s'est montrée aussi offensive face à la Chine. On a décidé 48% maximum sur les véhicules électriques. Pendant la campagne, on a beaucoup parlé de cette Europe qui protège. Elle est là dans ces décisions. Pour vous, c'est une bonne chose ?
Alors, je crois que c'est évidemment, une bonne chose par rapport à la manière dont l'Europe doit absolument parler à la Chine, et on voit bien que la Chine, et la dernière visite du président chinois l'a démontré, la Chine essaie à tout prix de parler aux pays d'Europe, et pas trop à la Commission, pas trop à l'ensemble de l'Europe. Parce que effectivement, là, si le grand marché européen, qui est un marché capital pour la Chine, se ferme, c'est quelque chose qui aura des conséquences immédiates. Donc il est très important que l'Europe ne soit pas victime d'un dumping chinois, c'est-à-dire, en effet, d'une baisse des prix inconsidérée pour tuer l'industrie européenne. D'un autre côté, évidemment, attention, nous ne sommes pas les Américains, nous n'avons pas la même indépendance ou la même logique américaine, et on doit avoir là une ligne de crête qui doit être en même temps une fermeté vis-à-vis de la Chine et en même temps une ouverture probablement plus forte, notamment parce que la Chine est aussi un acteur incontournable dans la manière dont nous devons penser la fin de la guerre. Nous, Européens, on a cette question-là, la fin de la guerre avec la Russie. Il est évident qu'à un moment donné, la Chine pourra être un arbitre qu'utilisera l'Union européenne de ce point de vue.
Merci beaucoup Philippe de Sertine d'être venu ce matin, économiste directeur de l'Institut de haute finance.